Chapitre 5. Le savetier Simon, le billet. On était arrivé au commencement du mois de mai. Un jour pur dilatait les poitrines lassées de respirer les brouillards glacés de l'hiver, et les rayons d'un soleil tiède et vivifiant descendaient sur la noire muraille du temple. Au guichet de l'intérieur qui séparait la tour des jardins, riaient et fumaient les soldats du poste. Mais malgré cette belle journée, malgré l'offre qui fut faite aux prisonnières de descendre et de se promener au jardin, les trois femmes refusèrent. Depuis l'exécution de son mari, la reine se tenait obstinément dans sa chambre pour n'avoir point à passer devant la porte de l'appartement qu'avait occupé le roi au second étage. Quand elle prenait l'air par hasard, depuis cette fatale époque du 21 janvier, c'était sur le haut de la tour, dont on avait fermé les créneaux avec des jalousies. Les gardes nationaux de service, qui étaient prévenus que les trois femmes avaient l'autorisation de sortir, attendirent donc vainement toute la journée qu'elles voulussent bien user de l'autorisation. Vers 5 heures, un homme descendit et s'approcha du sergent commandant le poste. « Ah, c'est toi, Pertison, » dit celui-ci, qui paraissait un garde national de joyeuse humeur. « Oui, c'est moi, citoyen. Je t'apporte de la part du municipal Maurice Lindet, ton ami qui est là-haut, cette permission accordée par le conseil du temple à ma fille de venir faire ce soir une petite visite à sa mère. » « Et tu sors au moment où ta fille va venir, père dénaturé ?» dit le sergent. « Ah, je sors bien à contre-cœur, citoyen sergent. J'espérais moi aussi voir ma pauvre enfant, que je n'ai pas vue depuis 2 mois, et l'embrasser, là, ce qui s'appelle crânement, comme un père embrasse sa fille. Mais oui, va te promener, le service, ce service damné, me force à sortir. Il faut que j'aille à la commune faire mon rapport. Un fiacre m'attend à la porte avec 2 gendarmes, et cela juste au moment où ma pauvre Sophie va venir. Ah, malheureux père, dit le sergent, ainsi l'amour de la patrie étouffe en toi la voix du sang, l'un gémit et l'autre prie. Ô devoir immole, dis donc, Pertison, si tu trouves par hasard une rime en an, tu me la rapporteras, elle me manque pour le moment. Et toi, citoyen sergent, quand ma fille viendra pour voir ta pauvre mère qui meurt de ne pas la voir, tu la laisseras passer. L'ordre est en règle, répondit le sergent, que le lecteur a déjà reconnu sans doute pour notre ami Lorrain. Ainsi, je n'ai rien à dire. Quand ta fille viendra, ta fille passera. Merci, brave Thermopyle, merci, dit Tison. Et il sortit pour aller faire son rapport à la commune en murmurant, ah, ma pauvre femme va-t-elle être heureuse. Sais-tu, sergent, dit un garde national en voyant s'éloigner Tison et en entendant les paroles qu'il prononçait en s'éloignant, sais-tu que ça fait frissonner, au fond, ces choses-là? Et quelles choses, citoyen de Vaud, demanda Lorrain. Comment donc, reprit le compatissant garde national, de voir cet homme au visage si dur, cet homme au cœur de bronze, cet impitoyable gardien de la reine, s'en aller la larme à l'œil, moitié de joie, moitié de douleur, en songeant que sa femme va voir sa fille et que lui ne la verra pas. Il ne faut pas trop réfléchir là-dessus, sergent, car en vérité, cela attriste. Et sans doute, et voilà pourquoi il ne réfléchit pas lui-même, cet homme qui s'en va la larme à l'œil, comme tu dis. Et à quoi réfléchirait-il? Eh bien, qu'il y a 3 mois aussi que cette femme qu'il brutalise sans pitié n'a vu son enfant. Il ne songe pas à son malheur à elle, il songe à son malheur à lui. Voilà tout. Il est vrai que cette femme était reine, continua le sergent d'un ton railleur dont il eût été difficile d'interpréter le sens, et qu'on n'est point forcé d'avoir pour une reine les égards qu'on a pour la femme d'un journalier. N'importe, tout cela est fort triste, dit De Vaud. « Triste, mais nécessaire, dit Lorrain. Le mieux donc est, comme tu l'as dit, de ne pas réfléchir. » Et il se mit à fredonner. Hier, Nicette, sous les bosquets, sombres et frais, marchait seulette. Lorrain en était là de sa chanson bucolique, quand tout à coup un grand bruit se fit entendre du côté gauche du poste. Il se composait de jurements, de menaces et de pleurs. « Qu'est-ce que cela ? » demanda De Vaud. « On dirait une voix d'enfant, » répondit Lorrain en écoutant. « En effet, reprit le garde national, c'est un pauvre petit que l'on bat. En vérité, on devrait envoyer ici que ceux qui n'ont pas d'enfants. « Veux-tu chanter ?» dit une voix rauque et avinée. Et la voix chanta, comme pour donner l'exemple. « Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. »« Non, dit l'enfant, je ne chanterai pas. »« Veux-tu chanter ?»« Non, dit l'enfant, non, non, non. Ah, petit gueux, dit la voix rauque, et le bruit de lanières sifflantes fendit l'air. L'enfant poussa un hurlement de douleur. Ah, sacrebleu, dit Lorrain, c'est cet infâme Samson qui bat le petit Capet. Quelques gardes nationaux haussèrent les épaules, deux ou trois essayèrent de sourire, Devaux se leva et s'éloigna. « Je le disais bien, murmura-t-il, que des pères ne devraient jamais entrer ici. » Tout à coup, une porte basse s'ouvrit, et l'enfant royal, chassé par le fouet de son gardien, fit en fuyant plusieurs pas dans la cour, mais derrière lui, quelque chose de lourd retentit sur le pavé et l'atteignit à la jambe. « Ah ! » cria l'enfant, et il trébucha et tomba sur un genou. « Rapporte-moi ma forme, petit monstre, ou sinon... » L'enfant se releva et secoua la tête en manière de refus. « Ah, c'est comme ça !» cria la même voix. « Attends, attends, tu vas voir !» Et le savetier Simon déboucha de sa loge comme une bête fauve de sa tanière. « Hola, hola !» dit Lorrain en fronçant le sourcil. « Où allons-nous donc comme cela, maître Simon ?»« Châtier, ce petit louveteau !» dit le savetier. « Et pourquoi le châtier ?» dit Lorrain. « Parce que ce petit gueux ne veut ni chanter comme un bon patriote, ni travailler comme un bon citoyen. »« Eh bien, qu'est-ce que cela te fait ?» répondit Lorrain. « Est-ce que la nation t'a confié Capet pour lui apprendre à chanter ?»« Ah, ça, dit Simon étonné, de quoi te mêles-tu, citoyen sergent, je te le demande. »« De quoi je me mêle ? Je me mêle de ce qui regarde tout homme de cœur. Or, il est indigne d'un homme de cœur de voir battre un enfant, de souffrir qu'on le batte. » Un enfant qui n'a point participé au crime de son père, un enfant qui n'est point coupable et que, par conséquent, on ne doit point punir. Fais-moi, je te dis qu'on me l'a donné pour en faire ce que je voudrais. Je veux qu'il chante la chanson de Madame Veto et il la chantera. Misérable, dit Lorrain, Madame Veto, c'est sa mère à cet enfant. Voudrais-tu qu'on forçât ton fils à chanter que tu es une canaille? Moi, hurla Simon, ah, mauvais aristocrate de sergent. Ah. « Pas d'injure, dit Lorrain, je ne suis pas capé, moi, et l'on ne me fait pas chanter de force. »« Je te ferai arrêter, mauvais ci-devant. »« Toi, dit Lorrain, tu me feras arrêter. Essaye donc un peu de faire arrêter un Thermopyle. »« Bon, bon, rira bien qui rira le dernier. En attendant, capé, ramasse ma forme et viens faire ton soulier, mille tonnerres. » Et moi, dit Lorrain, en pâlissant affreusement et en faisant un pas en avant, les poings roidis et les dents serrées, « moi, je te dis... » qu'il ne ramassera pas ta forme. Moi, je te dis qu'il ne fera pas de souliers. Entends-tu, mauvais drôle? Ah oui, tu as là ton grand sabre, mais il ne me fait pas plus peur que toi. Ose de tirer seulement. Ah, massacre! Hurla Simon, blêmissant de rage. En ce moment, deux femmes entrèrent dans la cour. L'une des deux tenait un papier à la main. Elle s'adressa à la sentinelle. « Sergent, cria la sentinelle, c'est la fille Tison qui demande à voir sa mère. » Laisse passer, puisque le conseil du temple le permet, dit Lorrain, qui ne voulait pas se détourner un instant de peur que Simon ne profitât de cette distraction pour battre l'enfant. La sentinelle laissa passer les deux femmes, mais à peine eurent-elles monté quatre marches de l'escalier sombre qu'elles rencontrèrent Maurice Lindet, qui descendait un instant dans la cour. La nuit était presque venue, de sorte qu'on ne pouvait distinguer les traits de leur visage. Maurice les arrêta. « Qui êtes-vous, citoyenne ?» demanda-t-il, « et que voulez-vous »« Je suis Sophie Tison, » dit l'une des deux femmes. « J'ai obtenu la permission de voir ma mère et je viens la voir. »« Oui, » dit Maurice, « mais la permission est pour toi seule, citoyenne. »« Mais j'ai amené mon ami pour que nous soyons deux femmes au moins au milieu des soldats. »« Ah, fort bien, mais ton ami ne montera pas. » Comme il vous plaira, citoyen, dit Sophie Tison en serrant la main de son ami, qui, collé contre la muraille, semblait frappé de surprise et d'effroi. Citoyen fonctionnaire, cria Maurice en levant la tête et en s'adressant aux sentinelles qui étaient placées à chaque étage. Laissez passer la citoyenne Tison. Seulement son ami ne peut point passer. Elle attendra sur l'escalier où vous veillerez à ce qu'on la respecte. Oui, citoyen, répondirent les sentinelles. Montez donc, dit Maurice. Les deux femmes passèrent. Quant à Maurice, il sauta les quatre ou cinq marches qui lui restaient à descendre et s'avança rapidement dans la cour. « Qu'y a-t-il donc ? » dit-il aux gardes nationaux, « et qui cause ce bruit ? On entend des cris d'enfants jusque dans l'antichambre des prisonnières. Il y a, dit Simon, qui, habitué aux manières des municipaux, crut en apercevant Maurice qui lui arrivait du renfort, « il y a que c'est ce traître, cet aristocrate, ce ci-devant, qui m'empêche de rosser Capet. » Et il montra du poing Lorrain. « Oh, mordieu, je l'en empêche, » dit Lorrain en désignant, « et si tu m'appelles encore une fois ci-devant, aristocrate ou traître, je te passe mon sabre au travers du corps. »« Qu'une menace ! S'écria Simon. À la garde, à la garde ! C'est moi qui suis la garde, dit Lorrain. Ne m'appelle donc pas, car si je vais à toi, je t'extermine. À moi, citoyen municipal, à moi ! S'écria Simon, sérieusement menacé cette fois par Lorrain. Le sergent a raison, dit froidement le municipal, que Simon appelait à son aide. Tu déshonores la nation, lâche, tu bats un enfant. Pourquoi le bat-il, comprends-tu, Maurice? Parce que l'enfant ne veut pas chanter Madame Veto, parce que le fils ne veut pas insulter sa mère. Misérable, dit Maurice. Hein, toi aussi, dit Simon, mais je suis donc entouré de traîtres. Hein. Un coquin, dit le municipal en saisissant Simon à la gorge et en lui arrachant sa lanière des mains. Essaye un peu de prouver que Maurice Lindé est un traître. Et il fit rudement tomber la courroie sur les épaules du savetier. « Ah, merci, monsieur, dit l'enfant, qui regardait stoïquement cette scène, mais c'est sur moi qu'il se vengera. « Viens, Capet, dit Lorrain, viens, mon enfant. S'il te bat encore, appelle à l'aide, et on ira le châtier, ce bourreau. Allons, allons, petit Capet, rentre dans ta tour. « Mais pourquoi m'appelez-vous Capet, vous qui me protégez, dit l'enfant? Vous savez bien que Capet n'est pas mon nom. « Comment ce n'est pas ton nom, dit Lorrain, comment t'appelles-tu? « Je m'appelle Louis-Charles de Bourbon. Capet est le nom d'un de mes ancêtres. Je sais, l'histoire de France, mon père me l'a apprise. Et tu veux apprendre à faire des savates à un enfant à qui un roi a appris l'histoire de France ?» s'écria Lorrain. « Allons donc. Oh, »« Sois tranquille, dit Maurice à l'enfant. Je ferai mon rapport. » Et moi le mien, dit Simon, je dirais, entre autres choses, qu'au lieu d'une femme qui avait le droit d'entrer dans la tour, vous en avez laissé passer deux. » En ce moment, en effet, les deux femmes sortaient du donjon. Maurice courut à elles. « Eh bien, citoyenne, dit-il en s'adressant à celle qui était de son côté, as-tu vu ta mère ?» Sophie Tison passa à l'instant entre le municipal et sa compagne. « Oui, citoyen, merci, dit-elle. » Maurice aurait voulu voir l'ami de la jeune fille, ou tout au moins entendre sa voix, mais elle était enveloppée dans sa mante et semblait décidée à ne pas prononcer une seule parole. Il lui sembla même qu'elle tremblait. Cette crainte lui donna des soupçons. Il remonta précipitamment, et en arrivant dans la première pièce, il vit, à travers le vitrage, la reine cacher dans sa poche quelque chose qu'il supposa être un billet. « Oh, oh » dit-il, « aurais-je été dupe ?» Il appela son collègue. « Citoyen Agricola, dit-il, entre chez Marie-Antoinette et ne la perds pas de vue. « Ouais, fille municipale, est-ce que... »« Entre, te dis, j'ai cela sans perdre un instant, une minute, une seconde. » Le municipal entra chez la reine. « Appelle la femme Tison, dit-il à un garde national. » 5 minutes après, la femme Tison arrivait, rayonnante. « J'ai vu ma fille, dit-elle. »« Où cela ? » demanda Maurice. « Ici même, dans cette antichambre. »« Eh bien, et ta fille n'a point demandé à voir l'Autrichienne ?»« Non. » »« Elle n'est pas entrée chez elle ?»« Non. » »« Et pendant que tu causais avec ta fille, personne n'est sorti de la chambre des prisonnières ?» Ce que je sais, moi, je regardais ma fille, que je n'avais pas vue depuis 3 mois. Rappelle-toi bien. Je crois me souvenir. De quoi? La jeune fille est sortie. Marie-Thérèse? Oui. Elle a parlé à ta fille? Non. Ta fille ne lui a rien remis? Non. Elle n'a rien ramassé à terre? Ma fille? Non, celle de Marie-Antoinette. Si fait, elle a ramassé son mouchoir. « Ah, malheureuse !» s'écria Maurice, et il s'élança vers le cordon d'une cloche qu'il tira vivement. C'était la cloche d'alarme. Les deux autres municipaux de garde montèrent précipitamment. Un détachement du poste les accompagnait. Les portes furent fermées, deux factionnaires interceptèrent les issues de chaque chambre. « Que voulez-vous, monsieur ?» dit la reine à Maurice, lorsque celui-ci entra. « J'allais me mettre au lit, lorsqu'il y a 5 minutes, le citoyen municipal... » Et la reine montrait Agricola, s'est précipité tout à coup dans cette chambre sans me dire ce qu'il désirait. « Madame, dit Maurice en saluant, ce n'est pas mon collègue qui désire quelque chose de vous, c'est moi. »« Vous, monsieur ?» demanda Marie-Antoinette en regardant Maurice, dont les bons procédés lui avaient inspiré une certaine reconnaissance. « Et que désirez-vous ? » « Je désire que vous vouliez bien me remettre le billet que vous cachiez tout à l'heure quand je suis rentré. » Madame Royale et Madame Élisabeth tressaillirent. La reine devint très pâle. « Vous vous trompez, monsieur, dit-elle, je ne cachais rien. »« Tu mens, l'Autrichienne !» s'écria Agricola. Maurice posa vivement la main sur le bras de son collègue. « Un moment, mon cher collègue, lui dit-il, laisse-moi parler à la citoyenne, je suis un peu procureur. »« Ah, va alors, mais ne la ménage pas, morbleu !» Vous cachiez un billet, citoyenne, dit sévèrement Maurice. Il faudrait nous remettre ce billet. Mais quel billet? Celui que la fille Tison vous a apporté et que la citoyenne, votre fille, Maurice indiqua la jeune princesse, a ramassé avec son mouchoir. Les deux femmes se regardèrent épouvantées. Mais, monsieur, c'est plus que de la tyrannie, dit la reine. Des femmes, des femmes. Ne confondons pas, dit Maurice avec fermeté. Nous ne sommes ni des juges ni des bourreaux, nous sommes des surveillants, c'est-à-dire vos concitoyens chargés de vous garder. Nous avons une consigne, la violer, c'est trahir. Citoyenne, je vous en prie, rendez-moi le billet que vous avez caché. Monsieur, dit la reine avec hauteur, puisque vous êtes des surveillants, cherchez, et privez-nous de sommeil cette nuit, comme toujours. Dieu nous garde de porter la main sur des femmes. Je vais faire prévenir la commune et nous attendrons ses ordres. Seulement, vous ne vous mettrez pas au lit. Vous dormirez sur des fauteuils, s'il vous plaît, et nous vous garderons. S'il le faut, les perquisitions commenceront. Qu'y a-t-il donc ? Demanda la femme Tison en montrant à la porte sa tête effarée. Il y a, citoyenne, que tu viens, en prêtant la main à une trahison, de te priver à jamais de voir ta fille. De voir ma fille ? Que dis-tu donc là, citoyen ? Demanda la femme Tison, qui ne comprenait pas bien encore pourquoi elle ne verrait plus sa fille. « Je te dis que ta fille n'est pas venue ici pour te voir, mais pour apporter une lettre à la citoyenne Capet, et qu'elle n'y reviendra plus. »« Mais si elle ne revient plus, je ne pourrai donc la revoir, puisqu'il nous est défendu de sortir. »« Cette fois, il ne faudra t'en prendre à personne, car c'est ta faute, » dit Maurice. « Oh !» hurla la pauvre mère. « Ma faute ? Que dis-tu donc là ? Ma faute ? Il n'est rien arrivé, j'en réponds. Oh, si je croyais qu'il fût arrivé quelque chose, ah, malheur à toi, Antoinette, tu me le payerais cher. » Et cette femme exaspérée montra le poing à la reine. « Ne menace personne, » dit Maurice. « Obtiens plutôt par la douceur que ce que nous demandons soit fait, car tu es femme, et la citoyenne Antoinette, qui est mère elle-même, aura sans doute pitié d'une mère. » Demain ta fille sera arrêtée, demain emprisonnée. Puis, si l'on découvre quelque chose, et tu sais que, lorsqu'on le veut bien, on découvre toujours, elle est perdue, elle et sa compagne. » La femme Tison, qui avait écouté Maurice avec une terreur croissante, détourna sur la reine son regard presque égaré. « Tu entends, Antoinette, ma fille, c'est toi qui as perdu ma fille !» La reine parut épouvantée à son tour, non de la menace qui étincelait dans les yeux de la geôlière, mais du désespoir qu'on y lisait. « Venez, madame Tison, dit-elle, j'ai à vous parler. »« Oh là, pas de cajolerie !» s'écria le collègue de Maurice. « Nous ne sommes pas trop morbleu, devant la municipalité, toujours devant la municipalité. »« Laisse faire, citoyen agricola, dit Maurice à l'oreille de cet homme, pourvu que la vérité nous vienne, peu importe de quelle façon. » Tu as raison, citoyen Maurice, mais passons derrière le vitrage, citoyen Agricola, et si tu m'en crois, tournons le dos. Je suis sûr que la personne pour laquelle nous aurons cette condescendance ne nous en fera point repentir. La reine entendit ces mots, dit pour être entendue par elle. Elle jeta au jeune homme un regard reconnaissant. Maurice détourna la tête avec insouciance et passa de l'autre côté du vitrage. Agricola le suivit. « Tu vois bien cette femme, dit-il à Agricola. Reine, c'est une grande coupable. Femme, c'est une âme digne et grande. On fait bien de briser les couronnes, le malheur est pur. Sacrebleu, que tu parles bien, citoyen Maurice. J'aime à t'entendre, toi et ton ami Lorrain. Est-ce aussi des vers que tu viens de dire ? » Maurice sourit. Pendant cet entretien, la scène qu'avait prévue Maurice se passait de l'autre côté du vitrage. La femme Tison s'était approchée de la reine. « Madame, lui dit celle-ci, votre désespoir me brise le cœur. Je ne veux pas vous priver de votre enfant, cela fait trop de mal. Mais songez-y, en faisant ce que ces hommes exigent, peut-être votre fille sera-t-elle perdue également. Hein, faites ce qu'ils disent !» s'écria la femme Tison. « Faites ce qu'ils disent !» Mais auparavant, sachez de quoi il s'agit. « De quoi il s'agit ? » demanda la geôlière avec une curiosité presque sauvage. Votre fille avait amené avec elle une amie. Oui, une ouvrière, comme elle. Elle n'a pas voulu venir seule à cause des soldats. Cet ami, il avait remis à votre fille un billet. Votre fille l'a laissé tomber. Marie, qui passait, l'a ramassé. C'est un papier bien insignifiant, sans doute, mais auquel des gens mal intentionnés pourraient trouver un sens. Le municipal ne vous a-t-il pas dit que lorsqu'on voulait trouver, on trouvait toujours? Après? Eh bien, voilà tout. Vous voulez que je remette ce papier? Voulez-vous que je sacrifie un ami, sans pour cela vous rendre peut-être votre fille? Faites ce qu'ils disent, cria la femme, faites ce qu'ils disent. Mais si ce papier compromet votre fille, dit la reine, comprenez donc. Ma fille est comme moi une bonne patriote, s'écria la mégère. Ah, Dieu merci, les tisons sont connus, faites ce qu'ils disent. Mon Dieu, dit la reine, que je voudrais donc pouvoir vous convaincre. Ma fille, je veux qu'on me rende ma fille, reprit la femme tison en trépignant. Donne le papier, Antoinette, donne. Le voici, madame. Et la reine tendit à la malheureuse créature un papier que celle-ci éleva joyeusement au-dessus de sa tête en criant « Ah, venez, venez, citoyens municipaux, j'ai le papier, prenez-le et rendez-moi mon enfant. » « Vous sacrifiez nos amis, ma sœur, dit madame Élisabeth. « Non, ma sœur, répondit tristement la reine, je ne sacrifie que nous, le papier ne peut compromettre personne. » Au cri de la femme tison, Maurice et son collègue vinrent au-devant d'elle. Elle leur tendit aussitôt le billet. Ils l'ouvrirent et lurent « À l'Orient, un ami veille encore. » Maurice n'eut pas plus tôt jeté les yeux sur ce papier qu'il tressaillit. L'écriture ne lui semblait pas inconnue. « Oh, mon Dieu, s'écria-t-il, serait celle de Geneviève ? Mais non, c'est impossible, je suis fou. Elle lui ressemble sans doute, mais que pourrait avoir de commun Geneviève avec la reine ? » Il se retourna et vit que Marie-Antoinette le regardait. Quant à la femme tison, dans l'attente de son sort, elle dévorait Maurice des yeux. « Tu viens de faire une bonne œuvre, dit-il à la femme tison. Et vous, citoyenne, une belle œuvre, dit-il à la reine. « Allons, monsieur, répondit Marie-Antoinette, que mon exemple vous détermine. Brûlez ce papier et vous ferez une œuvre charitable. « Tu plaisantes, autrichienne, dit Agricola, brûler un papier qui va nous faire pincer toute une couvée d'aristocrates, peut-être ? Ah, ma foi, non, ce serait trop bête. « Au fait, brûlez-le, dit la femme tison, cela pourrait compromettre ma fille. « Je le crois bien, ta fille et les autres, dit Agricola, en prenant des mains de Maurice le papier que celui-ci eût certes brûlé s'il eût été tout seul. 10 minutes après, le billet fut déposé sur le bureau des membres de la commune. Il fut ouvert à l'instant même et commenté de toute façon. « À l'Orient, un ami veille, dit une voix. Que diable cela peut-il signifier ? Ah, « Pardieu, répondit un géographe, à l'Orient, c'est clair, l'Orient est une petite ville de Bretagne, située entre Vannes et Quimper. Ah, morbleu, on devrait brûler la ville, s'il est vrai qu'elle renferme des aristocrates qui veillent encore sur l'Autrichienne. Ah, « C'est d'autant plus dangereux, dit un autre, que l'Orient étant un port de mer, on peut y établir des intelligences avec les Anglais. » « Je propose, dit un troisième, qu'on envoie une commission à l'Orient et qu'une enquête y soit faite. » Maurice avait été informé de la délibération. « Je me doute bien où peut être l'Orient dont il s'agit, se dit-il, mais à coup sûr, ce n'est pas en Bretagne. » Le lendemain, la reine, qui, ainsi que nous l'avons dit, ne descendait plus au jardin pour ne point passer devant la chambre où avait été enfermé son mari, demanda à monter sur la tour pour y prendre un peu d'air avec sa fille et madame Élisabeth. La demande lui fut accordée à l'instant même, mais Maurice monta et, s'arrêtant derrière une espèce de petite guérite qui abritait le haut de l'escalier, il attendit caché le résultat du billet de la veille. La reine se promena d'abord indifféremment avec madame Élisabeth et sa fille, puis elle s'arrêta tandis que les deux princesses continuaient de se promener, se retourna vers l'est et regarda attentivement une maison, aux fenêtres de laquelle apparaissaient plusieurs personnes. L'une de ces personnes tenait un mouchoir blanc. Maurice, de son côté, tira une lunette de sa poche, et tandis qu'il l'ajustait, la reine fit un grand mouvement, comme pour inviter les curieux de la fenêtre à s'éloigner. Mais Maurice avait déjà remarqué une tête d'homme aux cheveux blonds, au teint pâle, dont le salut avait été respectueux jusqu'à l'humilité. Derrière ce jeune homme, car le curieux paraissait avoir au plus de 25 à 26 ans, se tenait une femme à moitié cachée par lui. Maurice dirigea sa lorgnette sur elle et, croyant reconnaître Geneviève, fit un mouvement qui le mit en vue. Aussitôt, la femme qui, de son côté, tenait aussi une lorgnette à la main, se rejeta en arrière, entraînant le jeune homme avec elle. Était-ce réellement Geneviève? Avait-elle de son côté reconnu Maurice? Le couple curieux s'était-il retiré seulement sur l'invitation que lui en avait faite la reine? Maurice attendit un instant pour voir si le jeune homme et la jeune femme ne reparaîtraient point, mais, voyant que la fenêtre restait vide, il recommanda la plus grande surveillance à son collègue Agricola, descendit précipitamment l'escalier et alla s'embusquer à l'angle de la rue Porte-au-Foin pour voir si les curieux de la maison en sortiraient. Ce fut en vain, personne ne parut. Alors, ne pouvant résister à ce soupçon qui lui mordait le cœur depuis le moment où la compagne de la fille Tison s'était obstinée à demeurer cachée et à rester muette, Maurice prit sa course vers la vieille rue Saint-Jacques, où il arriva à l'esprit tout bouleversé des plus étranges soupçons. Lorsqu'il entra, Geneviève, en peignoir blanc, était assise sous une tonnelle de jasmin où elle avait l'habitude de se faire servir à déjeuner. Elle donna, comme à l'ordinaire, un bonjour affectueux à Maurice et l'invita à prendre une tasse de chocolat avec elle. De son côté, Dixmer, qui arriva sur ces entrefaites, exprima la plus grande joie de voir Maurice à cette heure inattendue de la journée. Mais avant que Maurice prît la tasse de chocolat qu'il avait acceptée, toujours plein d'enthousiasme pour son commerce, il exigea que son ami, le secrétaire de la section Le Pelletier, vint avec lui faire un tour dans les ateliers. Maurice y consentit. « Apprenez, mon cher Maurice, » dit Dixmer, en prenant le bras du jeune homme et en l'entraînant, « une nouvelle des plus importantes. »« Politique ?» demanda Maurice, toujours préoccupé de son idée. « Cher citoyen, » répondit Dixmer en souriant, « est-ce que nous nous occupons de politique ? Non, 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 une nouvelle tout industrielle, Dieu merci. Mon honorable ami Morand, qui, comme vous le savez, est un chimiste des plus distingués, vient de trouver le secret d'un Marocain rouge, comme on n'en a pas encore vu jusqu'à présent, c'est-à-dire inaltérable. C'est cette teinture que je vais vous montrer. D'ailleurs, vous verrez Morand à l'œuvre, celui-là est un véritable artiste. » Maurice ne comprenait pas trop comment on pouvait être artiste en Marocain rouge, mais il n'en accepta pas moins, suivit Dixmer, traversa les ateliers et, dans une espèce d'officine particulière, il vit le citoyen Morand à l'œuvre. Il avait ses lunettes bleues et son habit de travail, et paraissait effectivement, on ne peut plus occupé, à changer en pourpre le blanc sale d'une peau de mouton. Ses mains et ses bras, qu'on apercevait sous ses manches retroussées, étaient rouges jusqu'au coude. Comme le disait Dixmer, il s'en donnait à cœur joie dans la cochenille. Il salua Maurice de la tête, tout entier qu'il était à sa besogne. « Eh bien, citoyen Morand, demanda Dixmer, que disons-nous ? » « Ah, nous gagnerons 100 000 livres par an, rien qu'avec ce procédé, » dit Morand. « Et voilà 8 jours que je ne dors pas, et les acides m'ont brûlé la vue. » Maurice laissa Dixmer avec Morand et rejoignit Geneviève en murmurant tout bas qu'il faut avouer que le métier de municipal abrutirait un héros. Au bout de 8 jours de temple, on se prendrait pour un aristocrate et on se dénoncerait soi-même. « Ah, bon, Dixmer, va, brave Morand, sauve Geneviève et moi qui l'avais soupçonné un instant. » Geneviève attendait Maurice avec son doux sourire pour lui faire oublier jusqu'à l'apparence des soupçons qu'il avait effectivement conçus. Elle fut ce qu'elle était toujours, douce, amicale, charmante. Les heures où Maurice voyait Geneviève étaient les heures où il vivait réellement. Tout le reste du temps, il avait cette fièvre qu'on pourrait appeler la fièvre 93, qui séparait Paris en 2 camps et faisait de l'existence un combat de chaque heure. Vers midi, il lui fallut cependant quitter Geneviève et retourner au temple. À l'extrémité de la rue Sainte-Avoie, il rencontra Lorrain qui descendait sa garde. Il était en serfil, il se détacha de son rang et vint à Maurice, dont tout le visage exprimait encore la suave félicité que la vue de Geneviève versait toujours dans son cœur. « Ah !» dit Lorrain en secouant cordialement la main de son ami. « En vain tu caches ta langueur, je connais ce que tu désires. » Ne dis rien, mais tu soupires, l'amour est dans ton œil, l'amour est dans ton cœur. » Maurice mit la main à sa poche pour chercher sa clé, c'était le moyen qu'il avait adopté pour mettre une digue à la verve poétique de son ami, mais celui-ci vit le mouvement et s'enfuit en riant. « À propos, dit Lorrain, en se retournant après quelques pas, tu es encore pour 3 jours au temple, Maurice. Je te recommande le petit capet. »